France Culture.
Il est 18h sur France Culture, le journal Julie Pacaud. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. 3 cm de long pour près de 80 000 tonnes. Emmanuel Macron annonce la construction du nouveau porte-avions français pour succéder au Charles de Gaulle, un porte-avions nouvelle génération qui entrera en fonction en 2038 et dont le coût est estimé à 10 milliards d'euros. Le gouvernement israélien accélère la colonisation en Cisjordanie occupée. 19 avant-postes dans le nord du territoire palestinien ont été approuvés par le cabinet de sécurité, alors que la croissance des colonies israéliennes a atteint un niveau record en 2025, d'après l'ONU. Enfin, nous irons au Maroc quelques minutes avant le coup d'envoi de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et les supporters de foot du continent se pressent déjà dans les fanzones. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints. Emmanuel Macron a donc exposé la nouvelle stratégie de défense de la France devant les 900 militaires français déployés à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, avant son traditionnel repas de Noël avec les troupes mobilisées à l'étranger. Et pour être craint donc, le chef de l'État a décidé de doter la nation d'un nouveau porte-avions qui remplacera le Charles de Gaulle à l'horizon 2038. Un porte-avions nouvelle génération et colossal. Les explications de Claude Guibal.
Ce porte-avions, dont on parle déjà depuis plusieurs années, s'annonce impressionnant. 80 000 tonnes, propulsion nucléaire, capable d'emporter plus de 2 000 marins à bord et 30 avions de combat. Un porte-avions, c'est le cœur d'un groupe aéronaval. Autour de lui gravitent frégates, sous-marins. C'est une base aérienne mobile qui peut rester des mois en mer. Sa fonction principale, c'est la projection, pouvoir frapper, surveiller, dissuader, sans jamais dépendre d'une base étrangère n'importe où dans le monde. Mais le conflit en Ukraine le prouve. La façon de faire la guerre a changé, il faut désormais être très mobile, agile. Et pour construire un outil comme le porte-avions, pensé au siècle dernier, il va falloir s'adapter, note le général Jean-Paul Paloméros.
Il faut effectivement travailler sur la lutte anti-drone et en particulier contre les essaims de drones, sur les drones qu'ils soient maritimes, sous-maritimes, et puis l'évolution des avions qui sont dessus. Où en sera-t-on du développement du Rafale ? Pour moi, c'est la prévention, la protection vis-à-vis des menaces modernes qui doit attirer l'attention.
Mais un porte-avions, c'est aussi un outil de prestige et de dissuasion politique. Il dit quelque chose du rang de la France, de sa capacité à peser sur la scène internationale. Un symbole, certes, et un risque. La vraie question n'est peut-être pas de savoir s'il est utile, mais s'il est prioritaire.
Claude Guibal, colossal ce porte-avions, l'est aussi par son coût, donc estimé à 10 milliards d'euros, et sa construction, qui devrait débuter en 2026 au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, s'annonce d'ores et déjà complexe. Analyse Frédéric Moreau, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques de Paris.
Le porte-avions, c'est le vaisseau, un des vaisseaux les plus complexes à construire. Et donc, il y a une double motivation, une motivation politique. Et la Marine nationale, l'état-major de la Marine nationale, mais les Français, les forces politiques, de façon générale, ne comprendraient pas qu'on ne le fasse pas. Et puis, il y a aussi sans doute une motivation industrielle, c'est-à-dire de maintien des savoir-faire. Maintenant, d'un point de vue financier, on peut marquer quelques interrogations, même si c'est un projet de long terme. Je ne suis pas certain que la France ait les moyens seuls de construire un porte-avions nucléaire. D'un point de vue strictement militaire, on peut se poser des questions. Un porte-avions, c'était quelque chose de très puissant et très utile jusqu'à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, avec toutes les armes de précision de longue portée, c'est quelque chose qui est extrêmement vulnérable. Il n'y a rien qui peut arrêter un missile balistique et certainement pas la défense d'un porte-avions tel qu'on la conçoit actuellement.
Frédéric Moreau, expert des questions de défense à l'IRIS, au micro de Rachel Escolano pour France Culture. En visite donc aux Émirats Arabes Unis, le chef de l'État espère aussi renforcer son partenariat stratégique avec cet allié du Golfe et s'assurer de son soutien dans la lutte contre le narcotrafic d'importants narcotrafiquants y étant installés, notamment à Dubaï. Et dans cette lutte contre le narcotrafic, eh bien le gouvernement renforce aussi son arsenal avec la création du parquet national anticriminalité organisée. Il sera installé le 5 janvier avec un fonctionnement calqué sur celui du PNAT, le parquet national antiterroriste. 16 magistrats et 13 greffiers vont ainsi récupérer 170 affaires très complexes comme l'évasion de Mohamed Amra. Il détaille sa future patronne, la magistrate Vanessa Perret, dans les colonnes du Parisien. Laurent Nunez annonce quant à lui qu'un projet de loi sur la sécurité du quotidien est en préparation. Le ministre de l'Intérieur veut mettre en place des sanctions renforcées pour les auteurs des rodéos rodéo urbain, ceux de tirs de mortier ou encore les participants au rêve party qui pourrissent la vie de nos concitoyens, dit-il au JDD. Ce projet de loi a inspiré des mesures esquissées par son prédécesseur à Beauvau, Bruno Retailleau. Par ailleurs, un texte de loi passera devant le Parlement en février afin de donner plus de prérogatives aux policiers municipaux. Le Parlement, qui n'a pas réussi à s'entendre vendredi en commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances 2026, c'est donc une loi spéciale qui sera examinée en début de semaine au pas de charge, lundi à l'Assemblée, mardi au Sénat, pour une adoption juste avant Noël. Ce texte court permet à l'État de lever l'impôt et d'assurer la continuité des services publics. Sébastien Lecornu reprend dans le même temps ses consultations pour tenter de trouver une issue au blocage budgétaire. Il a rencontré aujourd'hui les chefs des groupes parlementaires Renaissance et Horizon, Gabriel Attal et Paul Christophe, avant ceux du Modem, des LR, du PS et des écologistes demain. Israël compte amplifier sa colonisation dans la Cisjordanie occupée. Le cabinet de sécurité du gouvernement a approuvé aujourd'hui l'installation de 19 nouvelles colonies. Un projet porté par les ministres d'extrême droite de la coalition au pouvoir de Benjamin Netanyahou, portant donc à 69 le nombre de colonies ayant reçu le feu vert du gouvernement depuis 3 ans. Les précisions depuis Jérusalem de Michel Paul, RFI pour France Culture.
C'est un nouveau coup d'accélérateur pour la politique du gouvernement israélien. Le cabinet de sécurité approuve officiellement ce dimanche la légalisation de 19 avant-postes en Cisjordanie. Parmi eux figurent Kadim et Ganim, situés dans le nord du territoire occupé et qui avaient été évacués en 2005 dans le cadre du plan de désengagement. Pour le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, ces lieux ont une importance stratégique primordiale pour la colonisation. Il s'agit de réparer l'injustice historique qui remonte à 20 ans et empêcher la mise en place d'un État terroriste palestinien, proclame encore Smotrich, un des dirigeants de l'extrême droite israélienne. Avec cette décision, le nombre total de colonies approuvées par Israël au cours des 3 dernières années grimpe désormais à 69, et cette annonce survient 2 jours seulement après un rapport de l'ONU signalant que la croissance des colonies israéliennes en Cisjordanie a déjà atteint en 2025 un niveau record depuis le début de leur suivi en 2017.
L'armée ukrainienne tente de repousser une percée à des troupes russes dans la zone frontalière de Soumy et accuse Moscou d'avoir déporté 50 de civils en Russie. La Russie qui n'a pour l'heure fait aucun commentaire officiel. Cette percée intervient au moment où de nouveaux pourparlers ont lieu à Miami, en Floride, des pourparlers séparés sous la houlette des États-Unis entre délégations russes et ukrainiennes. Par ailleurs, le Kremlin a fait savoir que Vladimir Poutine serait prêt à parler à Emmanuel Macron, répondant donc à l'ouverture au dialogue faite par le chef de l'État. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, débute ce soir au Maroc. Le pays hôte de cette compétition continentale de football espère bien remporter un sacre qui lui échappe depuis 50 ans et surtout assurer une organisation sans accroc avant d'accueillir le Mondial 2030. Alors avant le premier match des Lions de l'Atlas ce soir face aux Comores, eh bien les fanzones et terrasses de café se préparent à être prises d'assaut par les supporters du continent, comme à Casablanca, Sidi Khalfi.
Équipes et supporters sont arrivés ici au Maroc où tout est fin prêt. Les stades ont été rénovés et livrés à temps. À Casablanca, comme dans les autres villes du royaume, les rues sont pavoisées aux couleurs des pays africains. Hassan est sénégalais, il est d'ores et déjà dans les starting blocks.
Bien sûr, ouais, y a l'ambiance qui se prépare. Il y a aussi des groupes qui ont été créés pour des convois de voitures pour aller à Tanger, regarder les matchs et tout ça. Sinon, il y a les fan zones aussi qui ont été mise en place par la Fédération du Maroc et tout ça pour permettre à tout un chacun vraiment de vivre la CAN tranquillement. Quoi.
Dans les rues aussi, on se prépare. Omar, lui aussi, est sénégalais. Il vend maillots et écharpes aux supporters.
Nous, on vend des maillots du Sénégal, les bulles verts, tu vois, les bandeaux, les échelles là, les chéchards, tu vois, on vend tout. En plus, ça marche. Dieu merci, grâce à Dieu. Les gens y achètent bien.
Rien qu'à Casa, 15 fan zones officielles et des milliers de cafés seront envahis de supporters dans quelques heures. Parce que la CAN, comme le dit Omar...
C'est une grande fête, une grande fête. En plus, on est en Afrique, on est fiers d'être ici, quoi.
Et ça commence dès ce soir.
Voilà, la cérémonie d'ouverture de cette CAN débute dans moins d'une demi-heure à Rabat. Reportage de Sidi Khalfi, correspondant de France Culture au Maroc.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
Il s'était fait connaître du grand public à travers son rôle de mage dans Les Visiteurs, film culte de Jean-Marie Poiré. Pierre Vial est décédé aujourd'hui à l'âge de 97 ans. Comédien et metteur en scène, Pierre Vial s'est avant tout épanoui sur les planches du théâtre dans les années 80, avant d'entrer à la Comédie française et d'en devenir sociétaire en 2005. Le temps demain sera moins pluvieux, avec une journée de répit pour la Bretagne et le littoral atlantique, où le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Dans les terres, le ciel restera en revanche nuageux et des pluies marquées sont attendues du golfe du Lion au massif central. 6 départements sont toujours placés en vigilance orange pour crues et pluies inondations. Les minimales seront comprises de 2 à 10 degrés du nord au sud demain matin et jusqu'à 12 degrés l'après-midi. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau et Noé Chaban à la technique.